bien, ce soir, on va faire une lecture spéciale, puisqu'on va lire, non pas dans nos Bibles, mais on va lire dans le livre d'Enoch au chapitre 102. Je vous fais la lecture. C'est Enoch qui parle de la part du Seigneur, et voilà ce qu'il dit. Dans ce temps-là, le Seigneur désignera les justes et leur donnera autorité sur les enfants de la terre pour lire les livres, et pour témoigner concernant les livres, ces livres, et d'après leur sagesse, disant, parlez-leur de la sagesse parce que vous aurez à les conduire et vous recevrez votre récompense de la part de tous les enfants de la terre. Et vous aurez toutes sortes de rétributions. Réjouissez-vous, vous, ô enfants de justice, montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes. Car moi et mon fils, nous leur serons unis éternellement dans les voies de la vérité pendant leur vie. Et vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité. Amen. Amen. Enoch écrit dans ces temps-là. Dans ce temps-là. Dans quel temps? Eh bien, en lisant le contexte, c'est-à-dire les chapitres précédents, on apprend que Enoch parle de notre temps, en fait. Il parle du moment juste avant que le Messie, que Jésus, le Fils de Dieu vienne chercher son épouse. Et il parle du temps où l'ivraie aura mûri, il parle du temps où le l'ivraie sera tellement mûr qu'on reconnaîtra et on fera la différence entre son fruit et le fruit du bon grain qui avait été semé. Hein? Parce que vous vous rappelez qu'au commencement, Jésus l'a enseigné, Dieu avait semé sa semence. Et puis l'ennemi est venu et il a semé sa semence à lui, dans le même champ. La semence de Dieu, Jésus l'appelle les fils du royaume, dans Matthieu 13, 38. La semence de l'ennemi, Jésus l'appelle les fils du malin, toujours dans Matthieu 13, 38. Et on trouve aussi que les fils du royaume sont appelés le bon grain, ou la bonne semence, ou les justes. Et puis, les fils du malin sont appelés l'ivraie ou la mauvaise herbe. On trouve ça dans Matthieu 13, 40. Voilà, tout ça pour dire que dans le chapitre 101 d'Enoch, il nous est dit que les méchants, les pécheurs, l'ivraie, les fils du malin, corrompront et dénatureront fortement les paroles de la vérité. Les paroles de la vérité. Il dit aussi qu'ils écriront des livres pour fixer leurs supercheries, leurs inventions et leurs mensonges. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils ont même osé s'attaquer à la Sainte Bible. Je vous ai montré dernièrement la nouvelle version de la TOB. Eh bien, non seulement ils ont rajouté des apocryphes qui ne sont pas inspirés du tout, mais en plus, il dénature ce que Jésus dit. Par exemple, au sujet là de Matthieu 13, 38, il n'est plus question des fils du royaume, ni des fils du mauvais. Non, 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 ils ont traduit autrement pour faire passer leur idée à eux, parce qu'ils n'aiment pas du tout penser et ils ne veulent pas du tout qu'on pense. Ce qui est juste, c'est qu'il y a les fils de Dieu puis les fils du diable. Ah non, ils ne veulent pas ça. Alors, l'ivraie n'est devenue, elle est devenue non pas les fils du mauvais, mais ils sont venus les sujets du mal. Vous voyez? Et ça fait une énorme différence. Parce qu'après, quand vous allez parler avec des gens qui ont cette Bible-là, et que vous leur dites, mais la parole de Dieu dit, la Bible dit qu'il y a les fils du malin, et vous dites, non, c'est les sujets du malin. Et vous ne pouvez plus parler. Parce que c'est la parole de Dieu qui a dit. À ce moment-là, la parole de Dieu, elle est dénaturée. Vous comprenez? Enoch l'a prophétisé dans le chapitre 101, donc le chapitre qui précède ce qu'on vient de lire. Et c'est terrible. C'est afin de cacher la transgression qui a eu lieu au jardin. Ils ne veulent pas que les gens sachent ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas. Ainsi, selon leur traduction, l'ivraie, c'est plus la semence du serpent, ni même la postérité du serpent, parce que normalement c'est semence, mais comme ils ne veulent pas. Alors, ils préfèrent dire la postérité, comme ça on dit, oh, oui, c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup les serpents, hein. Surtout les femmes, elles n'aiment pas beaucoup les serpents. Oui, voilà, mais enfin, mais ça n'a rien à voir, ils veulent cacher la vérité. Ils induisent les gens dans l'erreur en dénaturant les textes sacrés, et ça c'est très grave, c'est ce que la Bible dit qu'à la fin il ferait de façon effrontée. Livrée, elle met ainsi le comble en fait à son péché en s'attaquant à ce qu'il y a de plus saint, parce que ce qu'il y a de plus saint sur la terre c'est quand même les saintes écritures. C'est la retranscription de ce que Jésus, de ce que les prophètes ont dit, ils l'ont écrit, et puis c'est là, et il ne faut pas le transformer comme ça. Bon, si quelqu'un marque à la place des oiseaux, il marque les bêtes qui ont des ailes, encore à la limite, ce n'est pas trop grave, parce que ça ne change pas fondamentalement le sens des choses. Mais là, c'est trop grave, là, c'est trop important. Et il y a d'autres passages, d'autres choses aussi, dans ces nouvelles Bibles qui sortent là. Par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec Alfred Kuhn, qui a participé à la traduction de la parole vivante, et je lui ai demandé, mais comment ça se fait que vous avez traduit 1 Corinthiens 15, 29 de cette manière-là, à la place de traduire, s'il n'y a pas de résurrection, alors, que font donc ceux qui se font baptiser pour les morts? S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi se font-ils baptiser pour les morts? Plutôt que de traduire ça comme ça, ils ont traduit pour eux, s'il n'y a pas de résurrection, à quoi cela sert-il de mettre notre vie en péril? Non mais c'est quoi? Vous comprenez mes frères et sœurs? C'est grave, c'est grave. Alors il m'a fait comprendre, parce qu'il y avait un magnétophone qui tournait, il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas tellement répondre. Alors il m'a dit, vous savez, je ne suis pas tout seul dans la traduction, n'est-ce pas? Puis il faisait le signe qu'il y avait le magnétophone et qu'il ne pouvait pas vraiment parler. C'est grave, c'est grave. Et comme ça, maintenant, les gens qui vont lire les nouvelles Bibles, ils vont dire, mais il n'y a pas de question de baptême pour les morts dans la Bible, puisque c'est écrit. C'est pas écrit ça du tout. Et puis alors, on va leur montrer nos vieilles Bibles, ils vont dire, mais c'est du vieux truc, ils ne connaissaient pas comme maintenant on connaît. Vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Enoch, le septième depuis Adam, il avait eu la révélation de tout ça, et il a écrit ça dans son livre, qu'à la fin, il dénaturerait les paroles de la vérité. Dans son livre, il développe, plus que Moïse, le sixième chapitre de la Genèse. Parce que le sixième chapitre de la Genèse, c'est aussi quelque chose qui dérange beaucoup les religieux. Il faut mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre. Enoch, il vivait à l'époque où les anges virent que les filles et les hommes étaient belles. Vous allez me dire, Michel, tu dénatures la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, c'est pas écrit les anges, c'est écrit les fils de Dieu. Oui, mais les fils de Dieu... Vous allez lire dans Job, c'est les anges. Voilà, les anges sont appelés les fils de Dieu. Alors les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont eu des relations avec. Enoch vivait à cette époque-là et il a connu, il a vu des êtres qui sont sortis de ces relations-là. Et il en parle beaucoup. Il en parle beaucoup. Par contre, Moïse, qui arriva beaucoup plus tard, Moïse est arrivé beaucoup plus tard qu'Enoch. Eh bien, lui, il n'a écrit que 4 versets à ce sujet, puis il a passé dessus. Il a passé dessus. Si bien qu'on n'a pas beaucoup de connaissances en lisant Moïse, ni les autres textes de la Bible, au sujet de ce que c'est que ces êtres qui sont issus, n'est-ce pas, de relations coupables entre des anges et des femmes. En fait, le livre de la Genèse, il faut le savoir, ça ne devrait pas être le premier livre de la Bible. Là, toutes nos Bibles commencent par le livre de la Genèse. Eh bien, ça ne devrait pas être le premier livre de la Bible, puisque ce livre de la Genèse, il est daté d'environ 1445 à 1405 avant Jésus-Christ. Mais réfléchissez un peu. Enoch, lui, c'est 5300 ans en arrière. Qui a commencé à écrire? C'est pas Moïse, c'est Enoch. C'est Enoch. Enoch, le septième depuis Adam. Jude connaissait le livre d'Enoch, Jésus connaissait ils ont cité Enoch de nombreuses fois. Une fois, je vous ferai une étude pour vous montrer tous les passages qu'ils ont cités. C'est très intéressant. Certains pères de l'Église, comme Tertullien aussi, considéraient le livre d'Enoch comme faisant partie des écrits canoniques. Ça, c'était 250 ans après Jésus-Christ. Et puis après, il y a beaucoup de théologiens qui ont dit non, parce que voilà, à mon avis, n'est-ce pas, c'est quand même trop précis. Voilà, ça a certainement été écrit après Jésus-Christ, parce que c'est vraiment trop précis ce qu'il dit. Oui, seulement voilà, Dieu a pourvu, et dans les manuscrits de la Mer Morte, on a retrouvé ce livre qui maintenant est authentifié comme ayant été écrit avant Jésus-Christ, non pas après Jésus-Christ, comme les théologiens ont voulu nous le faire croire jusqu'il n'y a pas longtemps. Et puis, Surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que Jude, lui, il cite une bonne prophétie d'Enoch qu'on retrouve dans ce livre d'Enoch, et il le cite comme étant le livre d'Enoch, le septième, il précise bien le septième depuis Adam. Ça ne peut pas être un autre Enoch qui aurait vécu, je ne sais pas, à l'époque de Malachi ou de je ne sais pas qui. C'est Enoch, le septième depuis Adam. Il le précise exprès afin qu'on n'ait pas de doute. Dieu veut pas que nous ayons des doutes. Alors, le livre d'Enoch est inspiré, mes frères et sœurs, il suffit de le lire en étant rempli du Saint-Esprit pour en avoir la révélation. Si vous lisez le livre d'Enoch et que vous priez avant, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez voir qu'il est vraiment inspiré. Ce livre, il était caché, tenu caché par les religieux juifs et les religieux chrétiens. C'est pourquoi on appelle ce livre un livre apocryphe. Apocryphe, ça ne veut pas dire douteux, ça veut dire tenu caché. Prenez votre dictionnaire, regardez ce que le dictionnaire dit. C'est bien d'écouter les gentils pasteurs illettrés qui disent que apocryphe, ça veut dire douteux, mais il faut aller voir le mot. Ben, on n'est pas des illettrés, il faut aller voir le dictionnaire, on peut lire le dictionnaire, et quand on lit le dictionnaire, on s'aperçoit que le mot apocryphe, ça veut dire tenu caché. Ça a été caché. Pourquoi c'était caché? Bon, les religieux, ils avaient leur petite raison. Ça fait partie de la petite histoire, justement, parce qu'ils n'aimaient pas beaucoup cette histoire d'anges qui ont couché avec des femmes. Ça fait peur. C'est un petit peu ennuyeux. On n'aime pas beaucoup ça. Et puis, en plus, voilà. Puis Paul qui cite aussi ce fait qu'à cause des anges, les femmes, elles doivent mettre un voile. Tout ça, c'est lié, mais les religieux ne voulaient pas ça. Donc, ça les gêne. Et puis, pas que ça. Le livre d'Enoch aussi les gêne. Parce que le livre d'Enoch est un message qui accuse l'hypocrisie des religieux qui cherchent à dominer sur le peuple. Ils ne peuvent pas supporter une chose comme ça, les religieux. Donc ils l'ont mis, ils n'ont pas voulu vraiment le jeter, mais ils l'ont caché dans leur bibliothèque, au fond du temple, sous un cajot de pommes, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça, ils l'ont caché. Ils l'ont tenu caché. Mais la vraie raison pour laquelle ce livre a été tenu caché, c'est que Dieu lui-même ne voulait pas que ce livre soit divulgué dans tous les temps. Il a voulu que ça soit juste pour la dernière génération. Il a voulu que ça ressorte à la dernière génération. Ce livre d'Enoch, c'est un livre apocalyptique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un livre qui annonce la fin du monde. Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe. Apocalypse, ça veut dire révélation. Ça veut dire que ce livre apocalyptique, ça veut dire c'est un livre qui révèle les choses. Il met en lumière des choses qui n'étaient pas en lumière. Des choses d'en bas, c'est-à-dire de la terre, des choses d'en haut, c'est-à-dire du ciel, mais il révèle aussi les choses du monde inférieur, c'est-à-dire du séjour des morts, de ce qui s'y passe, et il révèle l'histoire du monde depuis lui-même, même depuis Adam, si vous lisez, jusqu'au jour du jugement et ensuite comment ça se passera après. Et Dieu révèle à Enoch l'histoire du monde dans ses plus grands événements, tout ça c'est écrit. C'est pourquoi les Juifs disent « c'est pas possible, c'est trop précis ». C'est pas croyable, ça peut pas être des prophéties, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire et puis qui a écrit un bouquin, puis c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si c'est vrai, ça a été authentifié maintenant, c'est vrai. C'est vraiment un livre de prophétie. Pourquoi est-ce qu'on douterait qu'il y ait des prophètes qui sont vraiment des vrais prophètes? C'est pas parce qu'on est infesté par les faux prophètes qu'il faut pas croire qu'il y a des vrais prophètes. Amen. Les faux prophètes, c'est vrai. Ils sont tellement terribles que maintenant, les gens, ils doutent. Quand il y a un vrai prophète, ils ne l'écoutent pas. Par contre, tous les autres qui viennent leur dire, « Ainsi dit le Seigneur, tu vas faire des voyages. Ainsi dit le Seigneur, tu vas te marier. » Alors là, on les croit, ceux-là. C'est infernal, ça. Les vrais prophètes. Il faut écouter les vrais prophètes. Et ce livre, il parle de ce qui va arriver, donc, prochainement. Il parle de notre époque, mais il parle aussi de ce qui va arriver prochainement. Et il met en ordre les livres de Daniel et de l'Apocalypse de Jean. Parce que ces livres-là, ils sont des grands mystères. Les gens, dans le milieu chrétien, ils marchent à tâtons avec ces bouquins-là. C'est pas clair. Mais ils sont dans l'ignorance, dans les ténèbres. Mais avec le livre d'Enoch, Dieu crée la lumière. Dieu est un créateur de lumière. Dieu crée la lumière où? Dans celui qui lit, dans celui qui écoute et dans celui qui comprend. Alors, on est au temps du rétablissement de toutes choses. Ce temps-là, il commence juste avant le temps où Jésus revient pour enlever son épouse. Et quand Enoch vivait, le déluge n'avait pas encore eu lieu. Il a prophétisé le déluge. Il a annoncé ce déluge. Et quand Noé est né, eh bien, le grand-père est venu parce qu'il était tout affolé. Vous lirez ça dans le livre d'Enoch. Il était tout affolé quand il a vu l'apparence de Noé. Pour lui, ça lui a paru épouvantable, terrible. Alors il est allé voir Enoch et Enoch a prophétisé sur cet enfant, racontant l'histoire du déluge et ensuite ce qui allait arriver à toutes ces générations qui allaient suivre. Et Là, maintenant, on en est au point où il est en train, où Dieu est en train de rétablir toute chose, et Dieu a permis que le livre d'Enoch apparaisse dans notre génération, et les manuscrits de la mer morte l'authentifient, et ces manuscrits obligent les témoins de Jéhovah, les théologiens, à reconnaître que ce livre a été écrit avant Jésus-Christ. Et s'il était écrit avant Jésus-Christ et que Jude en avait un, comme il dit qu'il en avait un, ça veut bien dire que c'était celui de Enoch, le septième depuis Adam, sinon on peut tout mettre en doute dans la Bible. D'accord? Entre eux, les théologiens, ils parlent. Mais comme dirait Coluche, hein, c'est dans un milieu autorisé, vous ne serez jamais autorisé d'aller parler. Hein, c'est entre eux. Là, ils boivent le thé, ils fument leur petit cigare, puis ils discutent entre eux. Et puis, là maintenant, on commence à voir, parce que comme ils discutent, ben, ils font avancer un peu le schmilblick, et on commence à voir le livre d'Enoch dans les rayons des librairies chrétiennes. Formidable, c'est déjà une avancée, c'est déjà quelque chose. Et la Bible dit, enfin pas la Bible, le livre d'Enoch dit que Dieu désignera donc des hommes à la fin sur terre pour faire connaître ce livre. Ben, vous voyez, ça y est, il a suscité des théologiens, des scientifiques, toutes sortes de gens pour publier, n'est-ce pas, ce livre. Vous le trouvez par exemple dans la collection Pléiade, c'est des gens qui ont été suscités par Dieu pour publier ça. Et Dieu les a désignés et leur donne autorité, c'est-à-dire pouvoir, pour que ces choses soient connues dans le monde. Dieu veut que ça soit connu. Et chacun parle, il le dit dans Enoch, le dit, chacun parle avec la sagesse qu'il a reçue de Dieu, et ça arrive juste avant le retour de Jésus, juste avant que l'épouse s'en aille, juste avant l'enlèvement. Alors ce livre, il ouvre l'esprit au sujet des choses saintes qui étaient restées des mystères dans la Bible. Et le contenu de ce livre, en fait, c'est l'huile qui permet aux vierges sages d'être suffisamment éclairées pour aller à la rencontre de l'époux. Vous vous rappelez qu'il y avait des vierges folles, il y avait des vierges sages, il y avait des vierges folles qui n'avaient pas pris de réserve avec elles, parce qu'elles disaient, bon, ça suffit ce qu'on a, c'est bien, ça va. Jésus revient bientôt, alléluia. Puis quand c'était le moment de partir à sa rencontre, elles n'avaient pas l'huile, c'est-à-dire elles n'avaient pas... Vous savez que l'huile représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prophétie. C'est ce qui est sur les prophètes. C'est ce qui a permis que la Bible ou le livre d'Enoch soit écrit sous l'inspiration de Dieu. L'huile dont nous avons besoin. Et Jésus vient, il est à la porte. L'épouse, la véritable Église de Jésus-Christ, elle doit avoir de la lumière pour aller jusqu'à lui, jusqu'à la rencontre du Seigneur. Donc, il y a dans ce livre une sagesse qui avait été cachée et qui nous est réservé, qui est réservé à ceux qui veulent partir dans l'enlèvement, à ceux qui veulent faire tout ce qu'il faut, qui veulent être prêts pour le retour de Jésus, pas simplement en se sanctifiant. Bien sûr, il faut se sanctifier, mais il y a beaucoup d'autres choses, et la connaissance de ce livre nous permet de voir clair. C'est la lampe, c'est l'huile qui permet que notre lampe soit allumée sur notre chemin. Et la petite épouse de Jésus en a vraiment besoin aujourd'hui. Et quand on sera parti, mais ce livre, il restera. Il restera, et les gens qui n'auront pas été enlevés, les chrétiens qui méprisent ce livre, les chrétiens qui disent « Mais Michel, tu perds ton temps à faire les commentaires de ce livre », et tous les gens qui méprisent tout ça, eh bien, ces gens-là, ils auront le livre et ils trouveront encore des conseils, parce qu'il y a aussi des conseils pour eux, pour savoir comment se comporter pendant la grande tribulation. Et alors, ceux qui en auront entendu parler, le trouveront et ça les aidera. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui méprisent ce livre dans les milieux chrétiens. Ils ne cherchent pas du tout à s'en nourrir. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils ne veulent pas. Ils disent, oh, moi j'ai la parole de Dieu, la Bible. C'est ma nourriture, c'est la parole de Dieu, la Bible. Hein? Amen. Alléluia. Oui. Ils ont raison, c'est vrai, c'est la Bible. Seulement le problème, c'est qu'ils ne la lisent pas non plus. Hier, je parlais avec un pasteur, et il me dit, mais c'est pas écrit dans la Bible, ça. Je dis, ah bon? Et j'y monte dans la parole de Dieu, ben alors là, j'ai appris quelque chose. Vous voyez? Ils lisent pas. Ils lisent pas. Ils ont leur carte de pasteur, mais beaucoup ne lisent pas, n'étudient pas. C'est terrible. S'ils la lisaient, mes frères et sœurs, s'ils la lisaient et s'ils la comprenaient, parce qu'encore il y en a qui la lisent mais qui la comprennent pas, parce qu'ils la lisent avec un esprit distrait, parce qu'ils ne cherchent pas à écouter la voix de Dieu. Ils lisent les mots, mais il n'y a pas l'esprit dedans. La lettre, elle tue. Vous pouvez lire la Bible et ça peut vous tuer parce que vous n'y comprenez rien. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir lire la Bible correctement pour la comprendre. Eh bien, s'il la lisait avec le secours du Saint-Esprit dans un esprit de prière et d'humilité, il découvrirait en quel temps nous sommes. et que ce livre-là, il doit remonter à la surface. Et il s'approvisionnerait à la source. La source, c'est notre sauveur, c'est notre Dieu. C'est ce même Dieu qui avait choisi Enoch il y a plus de 5000 ans pour lui révéler des choses. Et puis ensuite, il a enlevé Enoch de la terre après que son livre soit écrit. Et Enoch n'est pas passé par la mort, il a été enlevé. Et ceux qui liront ce que Enoch a écrit, avec un esprit soumis au Saint-Esprit de Dieu, ceux qui liront ce livre d'Enoch, ceux qui aimeront ce livre d'Enoch, et qui conformeront leur vie à tout ce qui est écrit là-dedans, et qui ne contredit en aucun cas la parole de Dieu, la Bible, eh bien, ils ne passeront pas par la mort non plus, ils seront enlevés comme Enoch, l'auteur du livre. Amen. Amen. Il faut que ça soit su. Comment savoir si le livre d'Enoch est inspiré par Dieu le Père? Comment savoir? Mais premièrement, au moins, il faut le lire. Au moins, il faut le lire. Mais lire, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi demander à Dieu si ce livre est vrai. Et ensuite, ce n'est pas suffisant non plus de demander. Parce qu'on peut demander, puis ensuite on sort de là, puis c'est fini. Il faut encore, après avoir demandé, écouter le Saint-Esprit qui vous parle. Combien prient, et puis ensuite ils se rappellent même plus qu'ils ont demandé. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit leur parle? Ils ne sont pas fixés sur la chose. Ils ne sont pas en train de chercher vraiment. Alors voilà, je vous exhorte à le lire, et ensuite à prier pour que Dieu vous éclaire pendant votre lecture, et puis ensuite à écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire à ce sujet-là. Le Saint-Esprit, la Bible, Jésus nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Vous ne pouvez pas être trompé. Vous pouvez lire n'importe quel livre, vous ne serez jamais trompé parce que le Saint-Esprit est avec vous. S'il est avec vous, vous ne pouvez pas être trompé. Vous pouvez être un petit peu étonné, vous pouvez être un petit peu ébranlé, vous pouvez être curieux puis lire toutes sortes de choses en vous demandant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Mais le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la vérité, si vous êtes des gens d'esprit. Amen. Donc il n'y a aucune crainte à avoir, lisez-le. Si vous êtes authentique dans votre quête, il ne manquera pas de vous révéler que ce livre est un livre sacré, au même titre qu'Ésaïe, que le Pentateuque, que Daniel, qu'Osée, Amos, Abdias, Jonas et tous les autres. Amen. Moi, c'est ma grande conviction. Enoch, il prophétise, disant que Dieu désignera les justes et leur donnera autorité, c'est-à-dire pouvoir sur les enfants de la terre, pour lire ces livres. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ces livres? Pourquoi Dieu dit-il ces livres? Parce que le livre d'Enoch, ce sont 7 livres en un. Il a écrit 7 livres, en fait, Enoch. Mais ça, qui le sait, hein? Il y a le livre des veilleurs, dans le livre d'Enoch. Il y a le livre des veilleurs, il y a le livre des visions, il y a le livre des paraboles, il y a l'Apocalypse de Noé, le livre des songes, le livre d'exhortation et des malédictions, et puis l'Appendice. C'est les 3 derniers chapitres du livre. Et tout ça, ça forme un livre, le livre d'Enoch. 7 livres. Un livre, Enoch. Et ça nous a été donné, mes frères et sœurs. Par prophétie, je ne sais pas si vous savez, vous, ça, ces choses. Le temps du frère Dominique, encore, et Philippe, et Marie-Claire, Isabelle, ceux qui étaient tout au début dans la communauté. Un jour, le Seigneur nous a parlé par prophétie que nous allions recevoir quelque chose, une parole qui venait de Dieu. Et puis, le soir même, nous avons regardé une émission de Bernard Pivot. Et là, il avait invité André Caco, qui était un des traducteurs des manuscrits de la Mer Morte qui sont sortis dans le livre La Pléiade. Et puis ils ont parlé justement de ce livre, les manuscrits de la Mer Morte, et dont le livre d'Enoch. Et moi, le lundi matin, je me suis précipité à Paris pour l'acheter. Vous vous rappelez de ça? Et depuis, c'est depuis que je lis, que je cherche à comprendre, et que ce livre-là m'a été révélé comme étant vraiment un livre inspiré par Dieu. Et ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je travaille sur les commentaires. Alors, ça nous a été donné, pas rien qu'à nous. Hein, je n'ai pas cette prétention stupide. Il y a aussi d'autres élus, d'autres justes, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont été justifiées par Jésus-Christ, qui ont été désignées par Dieu. Mais vous qui m'écoutez là ce soir, il faut que vous preniez conscience du rôle important que vous avez à jouer dans cette affaire. Il faut que vous preniez conscience. Il faut que ce livre soit diffusé. C'est notre devoir. On aura à rendre compte à Dieu si on ne s'y attelle pas, mes frères et sœurs. Ça, c'est une chose qu'il faut faire, c'est une chose qu'on peut faire et c'est une chose qu'on doit faire. Ça nous a été donné à nous. Dieu a fait qu'on puisse se rencontrer, qu'on soit ensemble. Et vous qui regardez la télévision et vous qui écoutez le net, c'est pas par hasard que vous entendez ces choses. J'ai passé 4 ans à écrire ces commentaires sur le livre d'Enoch. On a mis ça en ligne sur Révélation Bible. Ça fait combien de temps déjà qu'on met chapitre par chapitre sur Révélation Bible? Ça fait bien aussi 3-4 ans. Hein, petit à petit, on met cela sur... On l'offre au monde, on ne le vend pas. Il n'y a pas de droit d'auteur sur mes commentaires. Vous pouvez même le voler si vous voulez. Ça n'est pas une affaire commerciale. Ça serait, à mes yeux, ça serait un péché que de vouloir faire du pognon avec ça. C'est trop sacré. Pensez-vous, le premier livre inspiré par Dieu il y a 5000 ans à son premier prophète, Enoch. Et on va faire du pognon avec ça. Quelle honte. Enfin, moi, j'aurais honte. Je ne pourrais pas. En tout cas, sur ma conscience, je ne pourrais pas. Maintenant, s'il y en a qui le font, hein, que Dieu les bénisse. Vous savez, c'est une affaire de conscience. Il ne faut pas juger ces choses-là. Mais moi, nous, ici, on ne peut pas. Alors, on le donne sur Internet. Les gens le lisent. La plupart des gens qui viennent, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes viennent sur notre site. Et savez-vous à cause de quoi ils viennent sur notre site? Premièrement, Enoch. Parce que c'est Dieu qui leur donne cette soif. C'est Dieu, on le sait que c'est sur Enoch, parce que sur Internet, il y a des mots-clés, et on voit par qui vient sur notre site, mais on voit par quel endroit ils entrent dans notre site, et c'est Enoch en numéro 1. Après, c'est le dictionnaire biblique, après, c'est les miracles. Voilà. Mais c'est d'abord Enoch, parce que Dieu donne une soif aux gens pour chercher ces choses-là. Alors, c'est bien, c'est sur Enoch. Alors, il y a déjà des dizaines de milliers de personnes qui ont lu, qui ont cherché, et vous savez, ils ne passent pas 30 secondes hein, sur notre site. On peut voir aussi combien de temps il passe. Il passe des minutes et des minutes et des minutes. C'est important, ils lisent vraiment, ils écoutent vraiment les prédications. Cette semaine, un frère me disait, mais ça donne quoi? Ça donne un résultat formidable. Ça donne un résultat formidable. Parce que ça va même dans les pays où on ne pourra jamais aller prêcher. Ça va dans les pays totalitaires, islamiques, fanatiques et compagnie. Ça va, on sait que ça rentre là-bas dedans. On voit, on a une carte, on sait, on voit que ça rentre là-bas dedans. Gloire à Dieu! Amen. Dieu n'est pas limité. Mais, mes frères et sœurs, on ne va pas se contenter de ça, on va aussi en faire un livre. Il faut un livre. Moi, je suis un vieux jeu. C'est bien Internet, mais il y a des gens qui n'ont pas Internet. Ne serait-ce qu'ici, chez nous, il y a au moins 2 personnes qui n'ont pas Internet. Hein. Il y a Rachel et Simone. Voilà. Ben, il faut des livres. Il faut des livres pour les personnes qui n'ont pas Internet. Ça existe, les gens qui n'ont pas Internet. Et il y a 70 pays francophones dans le monde. Est-ce que vous savez ça? 70 pays francophones. Ça veut dire quoi? Hein? Vous croyez qu'en Afrique francophone, ils ont Internet là-bas tous? Non. C'est une minorité qui vont sur Internet. Mais un livre, il va partout. Il va dans les cases, il va partout. Et il nous faut éditer un livre. Et pour ça, on a besoin d'argent. Alors, plus on aura d'argent, plus on pourra faire d'exemplaires de ce livre. Alors prenez part à cette œuvre. Vous qui êtes ici au sanctuary, mais vous qui écoutez sur le net, vous qui regardez la vidéo, prenez part à cette œuvre. Il y a 5000, un peu plus de 5000, 5300 ans, Enoch prophétisait que Dieu allait désigner des justes pour faire connaître ce livre. Vous êtes appelés ce soir. Est-ce que vous comprenez cet appel? Est-ce que vous comprenez cet appel? Et l'autre jour, notre frère Nicolas nous a dit, voilà, vous avez un appel de Dieu, mais et maintenant, c'est quoi la mission, votre mission? Eh bien, ça fait partie de la mission. Ça fait partie de notre mission ici au sanctuary. Alors, envoyez vos dons. Ce livre, il doit être imprimé le plus possible. Au moins en français. Après, j'ai des très bons traducteurs, et on va le faire traduire aussi en anglais, parce que c'est l'anglais, c'est... puis après, on le fera traduire aussi en espagnol. Mais déjà faisons un exemplaire en français. Pas un exemplaire. Faisons des milliers d'exemplaires en français. Hein? Et puis, il faut se rendre utile pour ce travail qui va rendre l'épouse de Jésus-Christ éveillée et puis qui va réveiller aussi d'autres. Alors, il faut envoyer vos dons. Alors, les dons, vous pouvez, vous qui êtes sur Internet, vous les envoyer à l'adresse que vous trouvez en première page de site. Tout en bas, vous allez tout en bas, puis là vous avez toutes les coordonnées, et puis vous marquez, vous précisez bien pour Enoch, hein, pour pas que ça parte dans l'humanitaire ou d'autres choses. Pour Enoch, d'accord. Et au chapitre 102, donc de ce livre d'Enoch, et au verset 2, il parle de récompense. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, quand j'ai lu, il parle de récompense. Eh bien, il y a des récompenses en réserve pour ceux qui vont suivre, qui vont lire ces choses et qui vont les publier, qui vont les faire connaître. Et en plus, la paix leur sera accordée. Ça, c'est écrit. Shalom, la paix vous sera accordée. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être unis à la voie de la vérité? Est-ce que vous n'avez pas besoin de paix dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie courante? Est-ce que vous n'avez pas besoin? On va relire Enoch. On va le relire. Chapitre 102. Dans ce temps-là, dit le Seigneur, dans ce temps-là, le Seigneur désignera les justes et leur donnera autorité sur les enfants de la terre pour lire les livres et pour témoigner concernant les livres et d'après leur sagesse en disant « Parlez-leur de la sagesse parce que vous aurez à les conduire et vous recevrez votre récompense de la part de tous les enfants de la terre et vous aurez toutes sortes de rétributions, de salaires. Réjouissez-vous, vous, ô enfants de justice, montrez-leur la récompense qui doit échoir à tous ceux qui en suivront les préceptes, car moi et mon fils, nous leur serons unis éternellement dans les voies de la vérité pendant leur vie, et vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité. Amen. » Vous voyez, mes frères et sœurs, n'attendez pas. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. De la part, David disait, « Mon cœur parle de ta part, ô Éternel. » Eh bien, votre cœur vous parle de la part de l'Éternel. Faites quelque chose pour que cette écriture qui a plus de 5300 ans arrive maintenant dans les maisons et qu'elle puisse être connue. Les religieux l'ont tenue cachée. Eh bien, nous ne voulons pas avoir cet esprit religieux. Nous voulons la révéler au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ce message que tu m'as donné ce soir. Merci mon Dieu de donner à chaque frère et sœur l'enthousiasme pour s'atteler à cette œuvre, pour faire cela, pour que ton œuvre, pour que ce livre soit connu du plus grand nombre et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, je prie mon Dieu. Bénis chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui écoute ce message, mon Dieu. Amen.